J'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi au premier chapitre du livre des Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons étudier comme dans une école, nous allons apprendre. Généralement, on fait des prédications, on entend toutes sortes de paroles, mais on n'apprend pas la parole de Dieu. On ressort des services, la tête remplie de paroles ou de la sagesse humaine, mais nous n'apprenons pas beaucoup sur les pensées de Dieu, sur la parole de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais faire au cours de cette série sur le livre des Éphésiens. D'abord, j'aimerais vous parler du thème de ce livre. Généralement, on parle de l'épître aux Éphésiens comme l'épître de l'Église. On parle de l'Église comme étant le corps. Oui, c'est un des thèmes importants du livre. Mais le thème principal de ce livre, c'est la grâce. Le thème principal du livre des Éphésiens, c'est la grâce. Et partout dans ce livre, il est question de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a sauvés pour célébrer les louanges de sa gloire et par grâce. Donc, le thème principal de ce livre, c'est la grâce. Il y a une différence énorme en mentalité entre le peuple américain et le peuple haïtien. Le peuple américain croit qu'il a droit à tout. Il a le droit sur tout. Et les gens comprennent difficilement le concept de la grâce aux États-Unis parce que pour eux, ils ont droit. Dieu doit les bénir. Les gens doivent les respecter. Ils ont droit à tout, tout simplement parce qu'ils sont américains. Ils ont le droit à tout, ils ont le droit sur tout. La différence avec le peuple haïtien, c'est que, malheureusement, nous arrivons au point où nous ne croyons plus à notre droit. Nous avons droit à rien. Nous n'avons aucun droit au respect, aucun droit à la vie, aucun droit au bonheur, à la joie. En sorte que si un Haïtien est joyeux et heureux, il est perçu comme un traître. Et quand on demande à un Haïtien, comment vous êtes? Eh bien, pas plus mal. N'a pas gardé. Il n'a droit à rien. Et c'est un défi pour moi comme pasteur de balancer tout cela. Parce que j'ai vécu aux États-Unis et je suis haïtien, je vis en Haïti et je vois les deux fautes, les deux péchés, le péché des deux peuples, le péché des Américains, l'orgueil, le péché des Haïtiens, l'orgueil aussi, l'orgueil dans l'autre sens. Eh bien, c'est difficile aussi de faire comprendre aux Haïtiens le concept de la grâce. Parce que la seule chose à laquelle nous croyons que nous avons droit, c'est à la souffrance, la misère, le mépris, l'humiliation. Et c'est difficile de vous faire comprendre la grâce de Dieu. Et j'espère, au cours de cette série, Dieu va vous ouvrir les yeux de votre cœur, comme Paul a prié dans Éphésiens, pour vous faire comprendre que Dieu vous a fait grâce. Et la grâce de Dieu est suffisante pour tous vos problèmes, quel que soit le problème, quel que soit le péché, quelle que soit la situation, la grâce de Dieu est suffisante pour vous et pour moi. Donc, je prie comme Paul que Dieu vous aide à comprendre la grâce. Si j'aimerais vous inviter à lire avec moi d'abord au premier chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul s'adressait à une église comme la nôtre, avec des hommes et des femmes ordinaires comme vous et moi, avec nos problèmes, avec nos faiblesses, mais il s'adressait à eux comme des saints, non pas comme des pécheurs, mais comme des saints. Et si Paul
devrait s'adresser à l'église de la communauté ce matin. Je sais que dans à l'église de la communauté, les vies ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu. Ma vie n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Parfois, je fais ce que je veux, loin de la volonté de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui luttent avec de graves péchés. Mais savez-vous que votre identité devant Dieu n'a pas changé? Votre situation, votre vie, votre marche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais votre identité comme enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut changer cette identité une fois que Dieu vous a adopté comme fils ou comme fille. Il n'y a rien qui peut enlever cette identité. Et vous êtes saint parce que Dieu vous a sanctifié. Vous ne vous êtes pas sanctifié par vos œuvres, par vos actions, par votre service, mais c'est Dieu qui vous a sanctifié et il n'y a rien qui peut enlever cela. Cependant, Dieu vous appelle à marcher en nouveauté de vie. Donc, l'Épître aux Éphésiens nous aide à comprendre ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait pour nous. Trois choses. Si vous lisez le livre, c'est ce que vous allez découvrir. D'abord, vous allez découvrir à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, vous allez découvrir ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Il vous a sauvé par grâce. Et personne ici ce matin n'est au-dessous ou au-dessus de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de cette grâce. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va faire dans les trois premiers chapitres. Il va créer cette solidarité humaine dans le péché. Tous ont péché, a dit la Bible. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut se glorifier. Personne ne peut s'élever au-dessus d'un autre. Car tous, sans exception, tous ont péché. Moralement, nous avons tous échoué devant Dieu. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et au chapitre 2, Paul va nous condamner tous pour dire que nous étions tous morts, pas un seul vivant spirituellement. En ce sens, je ne peux pas me glorifier aux dépens de vous, vous ne pouvez pas vous glorifier aux dépens de moi. Nous avons cette solidarité, nous sommes unis, nous étions unis dans le mal. Nous étions des ennemis de Dieu. Et nous avions eu cette solidarité dans notre rébellion contre Dieu. En sorte que ce matin, lorsque Dieu nous accorde sa grâce, il a créé une nouvelle unité. Non pas dans le mal, non pas dans le péché, mais dans la grâce. Et c'est la base de l'exhortation de l'apôtre Paul, arrivé au chapitre 4, pour nous exhorter à marcher dans l'unité, à garder ce lien d'unité dans la grâce. Dans la grâce, non pas dans le péché. Nous étions solidaires dans le mal. Je n'étais pas coupable du même péché que vous. Vous n'étiez pas coupable du même péché que moi. Mais nous étions tous coupables devant Dieu, sans exception. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Sans exception, tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous égarés, comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu, qui a vu cette solidarité dans le mal, dans le péché, dans la mort, il nous a fait grâce. Et Paul a dit dans sa salutation aux Éphésiens que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'était la salutation. Au verset 1er, il parle de l'appel de Dieu. Paul a été appelé comme apôtre. Moi aussi et vous aussi, nous avons été appelés comme enfants de Dieu. C'est un appel. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a appelés. Parce que la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Personne ne cherchait Dieu. Mais Dieu qui est riche en bonté à cause de sa grande miséricorde, il nous a fait grâce, il nous a appelés. Alors Paul va décrire tout cela, ce que Dieu a fait. Au verset 3, il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Maintenant, il va énumérer ce que Dieu a fait pour nous. il nous a sauvés. D'abord, Paul va parler de l'élection de Dieu. Il nous a élus. Il dit, en lui, le verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et c'est important de nous arrêter ici. Pour dire que ce que Dieu a fait pour moi n'a pas commencé à ma conversion. Ce que Dieu a fait pour vous n'a pas commencé à votre conversion. Ce que Dieu a fait pour moi n'a pas commencé même avec ma naissance. Avant ma conversion, avant ma naissance physique, Dieu m'avait élu. Et ce que Dieu a fait pour moi n'a pas commencé avec la création du monde. Il a commencé bien avant la création du monde. Avant la fondation du monde, Dieu m'a élu. Dieu vous a choisi. Il vous a fait grâce. Alors vous allez me dire, mais pasteur, comment est-ce que Dieu peut le faire? Je n'existais pas encore. Mais Dieu vous a vu. Même avant votre naissance, avant la fondation du monde, Dieu a tout planifié. Avant le péché d'Adam, et Ève, Dieu a planifié mon salut. Il a planifié votre salut. Il vous a connu. Il vous a connu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et dans le psaume 39, David a dit, tu m'as connu même avant ma naissance. Et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dans le livre de Dieu étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant la chute, avant le péché, Dieu m'a connu, Dieu vous a connu, il vous a élu avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a été immolé avant la fondation du monde. Comment est-ce que cela peut se faire? C'est que Dieu vit dans l'éternel présent. Pour Dieu, il n'a pas un passé, un présent et un futur. Cela n'existe pas pour Dieu. Dieu est éternel et il vit dans un éternel présent. Pour Dieu, vous avez toujours été, vous existez toujours devant Dieu. Il le sait, il le voit. Maintenant, Dieu a organisé notre vie dans le temps. Il nous a donné un passé, un présent et un futur. Mais ce que lui, il voit, il ne voit pas cette séparation dans le temps. C'est pour vous et c'est pour moi. Cependant, Dieu agit dans le temps. Il intervient dans le temps pour accomplir sa volonté dans le temps. C'est pour cela que la Bible a dit, au temps marqué, le Christ, il est mort. Au temps marqué. Il a été immolé depuis toute l'éternité. Pour Dieu, c'était chose faite. Mais au temps que Dieu a marqué dans notre existence, et le Christ, il est venu et il est mort pour vous, pour moi, au temps que Dieu a marqué, puisque vous et moi, nous vivons dans un espace, dans l'espace et dans le temps. Mais Dieu n'a pas d'espace, Dieu n'a pas de temps. Il est éternel, il est présent, toujours présent. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous a élus? Dans quel but Dieu m'a élu, dans quel but il vous a élu. La Bible dit pour que nous soyons saints. C'est là notre vocation. C'est là notre appel. Dieu nous appelle à la sainteté, à être saints comme lui, il est saint. Et il a dit au peuple d'Israël, soyez saints comme moi, votre Père céleste, je suis saint. Il nous appelle à la sainteté. Et lorsqu'il nous a sauvés en Christ, il a fait de nous des saints. Et dans l'évangile de Jean, il y a un petit verset tellement intéressant. Je ne sais pas si je peux me souvenir de ce petit verset de mémoire. Dans 1 Jean, chapitre 5,
Dans 1 Jean chapitre 5, je ne me rappelle pas exactement du verset. Ok, le verset 17, chapitre 4, le verset 17. C'est un petit verset tellement important, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans ce verset. Dieu nous appelle à être saints, Dieu nous a sanctifiés et Paul a dit que nous sommes saints. Et dans la première épître de Jean, au chapitre 4, le verset 17, il est dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes saints. Dieu est saint, nous sommes saints. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ma conduite n'est pas saine? Pourquoi je n'ai pas une sainte conduite? C'est votre choix. Vous avez choisi de vivre ainsi. Vous avez choisi de désobéir à Dieu, de ne pas faire sa volonté. Satan vous a peut-être trompé sur votre identité. Parce que même à l'église, on enseigne aux croyants qu'ils sont encore des pécheurs. Si je suis encore pécheur, c'est normal à ce que je vis dans le péché. Mais si je sais que je suis saint, je ne peux pas vivre dans le péché. Je suis saint. Dieu m'a appelé à être saint. Non seulement qu'il m'a appelé à être saint, mais à être irréprochable devant lui. Il m'a appelé à être saint et à être irréprochable devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que je sois saint et irréprochable? Le verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Il m'a adopté dans sa famille. Il m'a sorti de la famille du diable. D'ailleurs, nous allons le voir au chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions des fils de rébellion. Maintenant, Dieu nous a élus, il nous a prédestinés et il nous a adoptés comme ses enfants en Jésus-Christ. Il a fait tout cela, non parce que j'ai quelque chose de bon en moi, non pas parce que vous avez quelque chose de bon, non pas parce que j'ai droit à cela, pas parce que vous avez droit à cela, mais il l'a fait pour son bon plaisir. Il prend plaisir à me bénir, à me faire du bien. C'est un plaisir pour Dieu de le faire. Il le fait selon son bon plaisir. Il le fait non seulement selon son bon plaisir, mais il le fait pour célébrer. Pour célébrer quoi? La gloire de sa grâce. Ce sont des thèmes ou des termes extrêmement importants. Pour célébrer la gloire de sa grâce. J'aime bien ce verset parce qu'il n'a pas dit pour célébrer la gloire de ses lois. La loi. Ou pour célébrer la gloire de ses punitions ou de ses châtiments. Dieu ne prend point plaisir à châtier ou à punir. Il trouve un plaisir à nous faire grâce selon son bon plaisir. Il prend un plaisir à nous bénir, non pas à nous punir, comme la religion ou comme l'Église veut ou veulent nous faire croire souvent que Dieu prend plaisir à nous punir. Dieu se réjouit. Nous sommes beaucoup plus spirituels quand nous sommes pauvres, laids et sottes. C'est la spiritualité. Mais non, Dieu prend plaisir à nous bénir. Dieu se réjouit de notre bénédiction et il prend plaisir à nous faire grâce. Il le fait pour célébrer la gloire de sa grâce. La grâce que Dieu a, il nous a favorisé dans le bien-aimé. Il nous a fait grâce dans son bien-aimé. Dans le bien-aimé, en Christ, encore, nous avons la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est que Dieu nous a rachetés. Nous étions vendus au mal, au péché. Dieu nous a rachetés. Il nous a adoptés. Il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ et il nous a pardonnés. Il nous a accordé le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. C'est l'épître de la grâce. Donc, Dieu a tout fait, Dieu a fait tout cela par grâce.
Et il prend plaisir à le faire. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Je n'étais pas un enfant de Dieu par nature. Par nature, j'étais vendu au péché. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. J'étais vendu au péché. J'étais vendu au mal. Je n'avais aucun choix que de faire le mal. Maintenant, Dieu m'a adopté dans sa famille. Je ne suis plus un esclave du péché. Je ne suis plus vendu au péché parce qu'il m'a racheté. C'est la rédemption par le sang de Christ. Il a payé les dettes, la dette de mes péchés. Il m'a racheté. Et maintenant, je suis libre comme enfant de Dieu. Il a pardonné mes péchés. Tout ce que j'avais fait contre lui, il les a pardonnés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il a répandu abondamment sur nous sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est quoi le mystère de la volonté de Dieu? C'est quoi le dessein de Dieu? Eh bien, voilà. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, ça veut dire quoi? De réunir toutes choses en Christ. Voilà l'unité dont parle Paul. L'unité dans la grâce. Nous étions solidaires dans le péché. Et maintenant, Dieu crée une nouvelle solidarité, une nouvelle famille. Dans la grâce, remplie de sa grâce. Et il a répandu abondamment sa grâce sur nous. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, il a dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Dieu a répandu sa grâce abondamment sur nous. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réunir toutes choses. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, sous un seul chef. La création, le ciel, la terre, l'humanité, les anges, le monde spirituel, le monde physique, va avoir un seul chef, le Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il dit, pour le mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Non seulement qu'il nous a adoptés, maintenant nous avons droit. Nous n'avions aucun droit avant. Il va le dire au chapitre 2. Nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, privés de droit de cité en Israël. Nous n'avions absolument rien. Mais maintenant, il dit, nous sommes héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu n'a pas été trouvé monsieur X ou Y pour demander conseil. Il a fait selon sa propre volonté. Dieu est souverain dans sa grâce. Il est souverain dans sa grâce, en sorte que je ne peux pas dire à Dieu qui doit être sauvé et qui ne doit pas être sauvé. Je ne peux pas dire à Dieu qui doit être appelé au ministère et qui ne peut pas être appelé au ministère. Je ne peux pas dire à Dieu quoi que ce soit. Il le fait selon sa volonté et il a planifié tout ça avant la fondation du monde. Maintenant, verset 12, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Quelle gloire? La gloire de sa grâce. Combien sa grâce est riche, combien sa grâce est grande. Pour célébrer les louanges de sa gloire, de la gloire de sa grâce. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pourquoi d'avance? D'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire même avant mon salut. C'est pour dire que vous êtes ici ce matin, non pas par accident, mais selon la volonté de Dieu. Et si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, j'aimerais vous dire que c'est le moment de le faire. Parce que la vie n'est pas un accident. Votre vie n'est pas un accident. Cependant, vous avez une responsabilité. Vous avez la responsabilité d'accepter ou de rejeter cette grâce. Vous avez la responsabilité d'accepter ou de rejeter cette grâce. C'est la seule chose que Dieu ne va pas faire pour vous. C'est de forcer sur vous sa grâce. La grâce est abondante. La grâce est riche. Vous ne pouvez jamais épuiser la grâce de Dieu. Et j'aime ce verset qui dit, notre Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Il a tellement de grâce. Amis, comme c'est triste que l'Église ne fait pas plus publicité pour la grâce de Dieu, puisque c'est à cela que Dieu nous a appelés pour célébrer la gloire de sa grâce. Cela m'étonne que l'Église ne célèbre pas davantage la grâce de Dieu. Cela m'étonne que lorsqu'un pasteur ou un prédicateur commence à parler de la grâce, tout le monde lui tombe dessus comme s'il était un traître. Cela m'étonne. Et je peux vous dire que c'est un plan diabolique de ne pas parler de la grâce de Dieu, parce que le but essentiel de Dieu dans notre salut, c'est de célébrer la gloire de sa grâce. Et dans l'Église, nous parlons beaucoup plus de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, que nous parlons de la grâce de Dieu. En sorte que les gens, ils ont beaucoup peur de Dieu, ils ont peur de s'approcher de Dieu, de parler de Dieu. Pourtant, Dieu nous a fait grâce. Il veut que nous parlions de sa grâce, non pas de ses jugements. Ses jugements sont terribles. Il ne faut pas oublier ses jugements. Mais nous parlons beaucoup plus des jugements de Dieu. Nous célébrons beaucoup plus les jugements de Dieu que nous célébrons la grâce de Dieu. Et ce matin, c'est un péché dont nous devons nous repentir. Et c'est ce que j'espère que le Seigneur va me permettre de faire. Maintenant, il y en a qui disent, oui, quand vous parlez de la grâce, vous donnez licence aux gens de vivre dans le péché. La grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Au contraire, c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer au mal. C'est la grâce de Dieu qui nous empêche à renoncer au mal. Il dit dans l'épître de Paul à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu. C'est la grâce qui nous enseigne à vivre selon la sagesse de Dieu, selon le plan de Dieu. Ce n'est pas la loi. La loi ne peut pas le faire. La loi ne peut pas le faire, mais c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais, au cours de cette série, vous parler de cette grâce et vous encourager dans la grâce. Et toute l'exhortation de la Bible, c'est être fortifié dans la grâce. Et ce matin, j'avais reçu la grâce de Dieu. Vous aviez reçu la grâce de Dieu. Il faut faire une chose maintenant. Ce que la Bible va nous enseigner maintenant, c'est d'accorder la grâce les uns aux autres. Et c'est là que le diable, il nous a séduits, il nous a induits en erreur de ne pas accepter la grâce de Dieu pour notre vie et de ne pas accorder la grâce aux autres. En sorte que l'Église soit comme un champ de bataille où les gens luttent pour le pouvoir, pour leur nom, pour paraître, plutôt que de vivre dans cette unité de la grâce. On essaie de forger l'unité, la communion fraternelle, mais selon les affinités, non pas selon la grâce. L'unité se fait dans la grâce. La communion se vit dans la grâce. Lorsque j'accorde la grâce à mon frère qui a péché contre moi ou à ma soeur qui a péché contre moi, si la personne veut de ma grâce, il arrive parfois que les gens refusent ma grâce. Ils m'ont insulté, ils m'ont fait du mal, mais je veux leur accorder la grâce. Ils refusent la grâce. Alors, à ce moment-là, il n'y a rien que je peux faire. Je ne peux rien faire. Dans leur orgueil, ils vont continuer à souffrir. Non pas que la grâce n'est pas disponible. La grâce est disponible. Mais s'ils se confortent dans leur orgueil, il n'y a absolument rien que je peux faire. Mais nous devons apprendre à donner grâce les uns aux autres. Comment est-ce qu'on le fait? On pardonne les uns aux autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est la grâce. On donne la grâce aux frères, aux sœurs, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents. On pardonne. On accepte. Et nous avons beaucoup à dire en ce sens. Le temps nous fait la guerre ce matin. Mais j'aimerais terminer avec la lecture de ce passage. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. La Bible s'explique. Après avoir entendu la parole de la vérité, ça veut dire quoi? L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. C'est là votre responsabilité, c'est de croire en cette grâce, de croire en l'évangile. En lui vous avez cru et lorsque vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous a scellé du Saint-Esprit. Mais cet esprit que Dieu avait promis, maintenant, il met sur vous le sceau du Saint-Esprit. Et ce que j'aime avec ce sceau, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu ne vont pas recevoir le sceau de la bête, parce qu'ils sont scellés du sceau de Dieu. On ne peut pas recevoir deux sceaux. On n'a qu'un sceau. Et ce matin, vous pouvez recevoir ce sceau de Dieu, le sceau de votre salut, le Saint-Esprit. Il y en a qui disent, « Oh, mais non, oui, vous avez été pardonné, sauvé, mais vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. » C'est faux, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le jour de votre salut, vous recevez le Saint-Esprit. Hein? Il dit, « L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés, amis. Il nous a sauvés selon sa propre volonté, non pas selon nos mérites. Éphésiens 2 va revenir là-dessus, non pas selon nos mérites, mais selon sa propre volonté pour son bon plaisir. Il l'a fait afin que nous soyons saints et irréprochables. En sorte que si mon témoignage n'est pas conforme à mon appel, c'est le temps maintenant de me reprendre, de me saisir, ressaisir et de commencer à vivre selon l'appel de Dieu. Et il a fait de moi son enfant, il a fait de vous son enfant. J'aimerais terminer ici pour dire ce matin que si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore accepté le Christ comme votre sauveur personnel, c'est le moment de saisir cette grâce. Ne comptez pas sur demain. Demain peut être trop tard. C'est maintenant le moment, le jour du salut. J'aimerais prendre le temps de prier pour vous. Et je vous invite à prier avec moi. Prions ensemble, le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous nous réjouissons de ta grâce et nous célébrons ta grâce ce matin. Merci d'être aussi riche que mes péchés. Tous mes péchés ne peuvent pas épuiser ta grâce. Merci, cette même grâce me donne la force et le courage de vivre chaque jour pour toi. Merci que cette grâce m'enseigne, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'immoralité et au mal. Merci que cette grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Nous reconnaissons que la grâce est dangereuse parce que nous avons reçu tellement de toi que parfois il nous arrive de dormir sur ta grâce. Mais réveille-nous ce matin. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donne-leur, Seigneur, de saisir cette grâce ce matin. Ainsi, je te prie, au nom de Jésus, ton Fils. Amen.